Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance du réveil. Nous arrivons à l'étude numéro 6. Les réveils du Nouveau Testament, eh bien, c'est quelque chose de tout aussi important, sinon, vous l'avez compris, encore beaucoup plus que les réveils de l'Ancien Testament. Car nous allons voir ensemble que ça ira jusque au nouveau saint, car il y a des saints actuellement, ils sont rares, mais il y en a tout de même qui méritent évidemment d'être mentionnés. J'aimerais vous demander, si c'est possible, de inscrire, de noter quelques citations bibliques que vous allez entendre. Cela a plusieurs raisons. Premièrement, pour que vous puissiez constater que on ne vous enseigne pas une doctrine ou des idées personnelles, mais que tout est basé sur la sainte parole de Dieu. C'est donc important. Nous ne défendons pas une particularité ou un schisme, mais nous essayons au mieux du possible, car personne n'est infaillible, de nous baser sur les saintes paroles de la Bible. L'Église, elle est née, on peut dire, dans le réveil. Et c'est dans le réveil qu'elle subsiste. Sans le réveil, l'Église meurt, selon le Lévitique, chapitre 17, versets 11 à 14. Il est dit que la vie se trouve dans le sang, et le réveil, c'est le sang de l'Église. Si l'homme veut tout faire par lui-même, un réveil peut retomber dans un état de détérioration et de même de mort. Et tout ce qui reste sont les souvenirs de grandes visitations de Dieu dans le passé. Le premier réveil dans le Nouveau Testament, c'était la Pentecôte. La date est des années 30 à 37 après Jésus-Christ. Le lieu, c'est Jérusalem. Et la référence biblique, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, et le chapitre 8, verset 4. Le grand réveil, commencé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, ça a été le réveil déterminant, oui, celui qui a le plus bouleversé et changé les vies, qui a détruit les œuvres du diable, et c'est celui qui a le plus glorifié Dieu et ainsi aussi le plus réformé le monde. Il a eu lieu exactement au bon moment, et cela malgré les oppositions du diable et les persécutions qui ont été dirigées par les puissants de ce monde, hommes politiques et religieux. Et le prochain réveil, lui aussi, viendra exactement au bon moment. Aucun homme et aucun esprit ne pourront l'empêcher ou le détruire. À la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions, et cela dès le premier jour. Notez Actes, chapitre 2, verset 41. Et il y a eu 4000, peu de temps après, 4000 qui ont été sauvés et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur pour le restant de la vie, voire même, vous l'avez compris, pour l'éternité. Premièrement, le résultat a été que l'apôtre Pierre est devenu immédiatement un prédicateur très puissant. Lui qui, juste auparavant, était un homme sans courage, ayant même renié son maître. Deuxièmement, il y a eu des miracles de guérison. Par exemple, un homme se trouvant à la porte du temple et qui était boiteux de naissance, fut guéri instantanément. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Et on portait également les infirmes dans les rues et on les couchait sur de petits lits et sur des couchettes afin que l'ombre de Pierre, quand Pierre passait au milieu de la foule, que cette ombre passe sur eux et tous les malades et ceux qui étaient tourmentés par les mauvais esprits furent guéris, absolument tous. Actes chapitre 5, versets 15 et 16. Troisièmement, il y a eu aussi ce terrible jugement de Dieu sur Ananias et Saphira qui sont morts, morts à cause de leurs mensonges. En effet, mentir à l'apôtre Pierre, cela a été comme s'il mentait au Saint-Esprit à cause de son onction, cette onction qui reposait sur l'apôtre. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Quatrièmement, il fut accompagné par la persécution, l'emprisonnement et le martyre d'Étienne, qui, on le sait, a été lapidé. Donc, ce réveil a été accompagné par tous ces malheurs épouvantables. Notez Actes chapitre 7, versets 54 à 60. Cinquièmement, le réveil transforma les personnes en missionnaires, car à partir de ce moment-là, elles accomplirent les paroles de Jésus. Mais vous, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Et ensuite, ils se dispersèrent et sont allés partout pour prêcher la parole de Dieu. Notez Actes chapitre 8, verset 4 et le chapitre 11, verset 19. Sixièmement, les anges étaient présents et deux fois, ils ont même délivré l'apôtre Pierre de la prison. Notez Actes chapitre 5, verset 19, et le chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Plus tard, ils ont frappé Hérode. Le réveil a frappé Hérode d'un mal affreux. Parce que, on le sait, il a commis des choses qu'il n'aurait jamais dû commettre. Et donc, Dieu a permis que Satan l'attaque dans sa santé, et même d'un mal affreux, dont il en est mort. À plusieurs reprises, on voit donc la présence des anges, dans Actes chapitre 8, verset 26, Notez également chapitre 10, verset 3, verset 7, verset 22 et chapitre 27, verset 33. Et septièmement, Dieu travaillait avec eux, et même il travaillait avec eux puissamment, avec des signes et des prodiges. Notez Actes, chapitre 2, verset 43, chapitre 5, verset 12, chapitre 14, verset 3, et Saint Marc, chapitre 16, verset 20. Le deuxième réveil a eu lieu 30 ans après Jésus-Christ. Le lieu, c'était la Samarie. La référence biblique, c'est Actes, chapitre 8, verset 5 à 25. Et l'instrument qui a été utilisé, ce fut Philippe. Lorsque en eut lieu la persécution à Jérusalem, Philippe est allé en Samarie, où tout de suite, il a constaté que le réveil avait commencé, et les foules d'un commun accord étaient attentifs aux choses que Philippe disait. Il l'entendait et il voyait les miracles que Dieu a permis de faire à travers de Philippe, je dirais Jésus-Christ. Car les esprits immondes criaient à haute voix. Ils sortaient de plusieurs qui en étaient carrément possédés. Beaucoup de paralytiques, entre autres, et de boiteux ont été guéris, et il y a eu une grande joie dans toute la ville. Notez Actes, chapitre 8, versets 6 à 8. Les Samaritains n'étaient pas des païens, mais ils s'étaient un peu égarés dans une forme idolâtre du judaïsme. Néanmoins, Dieu répandit également son Saint-Esprit sur eux. Les gens se convertirent à Jésus-Christ et reçurent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 17. Ce réveil toucha beaucoup de villages de toute la Samarie. Actes chapitre 8, verset 25. Le troisième réveil, c'était autour des dates de l'année 30 à 37 après Jésus-Christ. Le lieu, c'était Lydde et Saron. La référence, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 35. L'instrument qui a été utilisé, c'était l'apôtre Pierre. Après que l'apôtre Pierre a ressuscité Dorcas d'entre les morts, un grand réveil souffla sur les régions côtières d'Israël et se répandit parmi les païens suite à la visite de l'ange à Corneille. L'ange lui a dit d'appeler l'apôtre Pierre. Et c'est ainsi que le réveil s'est transmis aux non-juifs à travers les juifs. Car même lorsque les croyants ont été dispersés jusqu'à Antioche, ils prêchèrent l'évangile uniquement aux Juifs. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Le quatrième réveil, c'était autour des années 37 à 43 après Jésus-Christ. Le lieu, c'était Antioche, en Syrie. Les références bibliques sont Actes, Actes, chapitre 11, versets 19 à 30, et le chapitre 13, versets 1 à 3. Les instruments, ce sont des chrétiens persécutés. Et il y avait probablement Barnabas. À cause du ministère des chrétiens qui ont été persécutés et qui ont dû fuir de Jérusalem, Antioche est devenue la deuxième ville principale pour les premiers chrétiens et pour les premiers apôtres qui y étaient étroitement rattachés. La toute première église a été fondée là, selon Actes chapitre 11, versets 20 et 21. C'est donc là que les disciples de Christ furent appelés chrétiens. C'est en ce moment-là, notez Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est de là que l'apôtre Paul et Barnabas ont été envoyés comme missionnaires par le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. L'apôtre Paul devait faire trois grands voyages missionnaires. Lui, qui par le feu ardent du réveil d'Antioche est devenu un véritable missionnaire tout au long de sa vie. C'était une belle ville hellénique qui a été gouvernée par les Romains de Syrie, dont la population comprenait des Juifs et d'autres nationalités. C'est donc un grand centre urbain propice à la propagation du réveil parmi Juifs et non-Juifs. Et là, vous pouvez noter Romains. Non, je me trompe, excusez-moi. C'est donc évidemment un grand centre urbain, je viens de le dire, qui a été propice à la propagation du réveil aussi bien parmi les Juifs que parmi les non-Juifs. Il y avait là des Romains, il y avait des Grecs et il y avait même des Asiatiques. Le cinquième réveil, c'était vers les dates 50 à 52 après Jésus-Christ. Le lieu se trouvait en Corinthe. La référence biblique, c'est Actes chapitre 18, versets 1 à 8. Les instruments sont l'apôtre Paul, Aquila et Priscilla. Tout de suite après avoir prêché à l'Aréopage d'Athènes, l'apôtre Paul est venu à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Il y a rencontré là un couple de compatriotes juifs qui se nommaient Aquila et sa femme Priscilla. Ils ont été chassés de Rome par l'empereur Claude parce qu'ils étaient juifs. Eux aussi fabriquaient des tentes et tous les trois ensemble gagnaient ainsi leur vie en exerçant ce métier. Actes chapitre 18, verset 3. Ce faisant, l'apôtre Paul enseignait Jésus-Christ chaque sabbat dans la synagogue. Et au début, l'apôtre Paul y allait doucement. Mais lorsque ses co-ouvriers Silas et Timothée arrivèrent en Macédoine, il fut poussé dans son esprit à témoigner que Jésus était le Christ. Le peuple se mit malheureusement en colère. Le peuple s'opposa. Ils blasphémèrent. Et l'apôtre Paul secoua ses vêtements de colère, ainsi de frustration et de tristesse. Et il leur a dit « Que votre sang soit sur vos têtes, car moi, je suis pur. » Sans doute, se référait-il à Ézéchiel au chapitre 3, versets 17 à 21. Et ensuite, il se mit à prêcher chez Justus, un non-juif qui adorait Dieu et dont la maison voisinait à la synagogue, ou tout près de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut, il est venu à croire au Seigneur, ainsi que beaucoup d'entre les Corinthiens. Quand la persécution est devenue très dure, le Seigneur parla à l'apôtre Paul une nuit dans une vision et lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais pas, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Actes chapitre 18 et le verset 9 jusqu'au chapitre 10, c'est-à-dire 19. L'apôtre Paul était évidemment un peu découragé. Il y est tout de même resté encore une année et demie, et vous avez compris, non sans affronter certains problèmes, puisque les Juifs, s'élevant contre lui, l'ont amené devant le tribunal. Mais Dieu le délivra. Nous pouvons donc être sûrs que si Dieu se sert de nous pour envoyer un réveil, le diable fera tout son possible pour déclencher la confusion et pour porter ombrage au nom du Seigneur. Il se servira de tous ceux qui le laisseront faire. Mais si nous résistons avec courage, alors là, Dieu se servira de nous malgré les démons et malgré les hommes méchants qui se rendent eux-mêmes des suppôts du diable. Ils sont donc, comme vous l'avez compris, au service de l'ennemi. Le sixième réveil était vers les dates 51 et 52 après Jésus-Christ. Le lieu, c'était Éphèse. Les références bibliques sont Actes chapitre 18, versets 19 à 21, chapitre 19, verset 1 et chapitre 20, verset 1. Les instruments sont l'apôtre Paul et ses co-ouvriers, Aquila et sa femme Priscilla. Vous pouvez noter Actes chapitre 18, verset 19 et les versets 24 à 26 de Actes chapitre 18. Caius et Aristarque, des compagnons macédoniens de l'apôtre Paul, étaient là également, selon les versets 19 à 29 du chapitre 18. Le réveil qu'a vécu l'apôtre Paul à Éphèse fut le plus grand qui ait été connu. Il se propagea dans toute la région, comme le disait son accusateur Démétrius. Vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux qui sont faits de mains d'hommes. Et non seulement, il y a du danger pour nous que cette partie tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Diana ou Diane ne soit plus rien estimé et qu'il n'arrive que Sa Majesté, laquelle l'Asie entière et la terre habituée révérée et comment, soit maintenant en quelque sorte anéantie. Actes chapitre 19, versets 26 et 27. Le Saint-Esprit libérait ceux qui étaient emprisonnés par le culte de l'idole. L'idole la plus puissante de tous les temps, c'était la déesse Sémiramis, la femme et la mère de Nimrod. Elle était connue dans le monde sous toutes sortes de noms tels que Isis en Égypte, Lat en pays arabe, Krubala, Cybèle, Hepa et Artemis en Asie mineure. Diane pour les Romains. Elle avait aussi de nombreuses appellations. Une d'elles, c'était qu'elle était soi-disant la mère des déesses. À cette époque-là, elle était vénérée dans le monde entier. On lui donnait toujours les caractéristiques propres à la région et un nom conforme au pays. Par exemple, en Chine, on l'appelait Sheng Mu, c'est-à-dire la Sainte Mère, qui est aussi le nom qui est donné en Chine par les catholiques romains à Marie, qui est la mère de Jésus. À Pessinus, un centre important de la Phrygie, selon Actes chapitre 16, verset 6, et chapitre 18, verset 23, elle était vénérée avec une grande dévotion et un grand zèle. Car on croyait ici qu'elle était tombée du ciel. Actes chapitre 19, verset 35. Un météorite ayant une forme semblable à la sienne fut vénéré pendant des années en tant que représentation de Cybèle, ce fut son nom dans cette région-là. Beaucoup de figurines de déesses ont été trouvées récemment par des archéologues au cours des fouilles nouvelles. Les organes sexuels des prêtres et du souverain sacrificateur, appelé Mégabysos, furent enlevés. Et pour un jeune homme, c'était en quelque sorte un très grand honneur d'être choisi pour la servir et donc de sacrifier ses organes mâles, puisque elle était surtout entourée d'une suite de femmes. Un livre d'archéologie venant d'un site de fouilles à Éphèse déclare que la mère déesse, qui fut amenée de Pessimus à Rome, était très respectée. Elagabalus, l'un des empereurs romains, sectionna carrément son organe sexuel au cours d'une cérémonie selon le culte à Cybèle et le présenta à la mère déesse. Cet incident témoigne de l'estime dont elle bénéficiait à Rome. À cause de ces pratiques contre nature, il y a eu beaucoup d'actes sexuels pervers qui ont été commis en l'honneur de la déesse. Cette sorte de culte étant redevenu à la mode parmi le nouvel âge, et ces choses, croyez-moi, hélas, seront à nouveau pratiquées si ce n'est pas déjà fait dans le secret. Toute religion qui est centrée sur une déité du sexe féminin exige que les mâles à son service vivent dans le célibat. Seul le réveil peut détruire ce genre de paganisme tel que l'occultisme, le satanisme, la sorcellerie et toute autre forme ténébreuse du mysticisme ainsi que l'astrologie. Nous voyons donc l'importance du réveil que a connu l'apôtre Paul à Éphèse. Chers amis, l'astrologie consiste à démontrer que les étoiles et les planètes influencent nos vies. En suivant de près leurs mouvements, on leur donne beaucoup plus d'importance qu'au Seigneur, au Seigneur Dieu lui-même, et on se laisse guider, on se laisse diriger par elle plutôt que par Dieu. Donc, au lieu de chercher la direction divine dans la prière et par le Saint-Esprit, celui qui consulte toutes ces choses qui, entre guillemets, sont totalement défendues, reçoit de l'aide. Il reçoit ou elle reçoit de l'aide d'une toute autre source. Et ceci conduit à la destruction de l'individu, mais aussi de la nation, lorsque ses responsables y cherchent une direction. L'astrologie crée toujours, elle peut seulement créer la crainte, le soupçon, et sans oublier l'asservissement. Quand Dieu est prêt à détruire une nation, eh bien, oui, il permet qu'elle tombe entre les mains des astrologues, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 47, versets 13 à 15. Là, il est dit qu'ils se tiennent là et te sauvent les interprétateurs des cieux, les observateurs des étoiles. Oui, ceux qui, d'après les nouvelles lunes, donne la connaissance des choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume. Le feu les brûlera. Ils ne délivreront pas leur âme de la force de la flamme. Et il ne restera ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi, seront pour toi ceux avec lesquels tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils erreront chacun de leur côté, et il n'y a personne qui te sauvera. Donc l'astrologie est une ancienne religion babylonienne qui débuta avec Nimrod. Elle ne put sauver Babylone de la destruction, et elle ne sauvera pas plus ses adhérents d'aujourd'hui. Donc, je vous conseille de fuir tout cela, vous qui êtes des enfants de Dieu, car c'est un prodige qui va vous tromper. Les nations et leurs dirigeants sont de plus en plus dupes par ces faux prophètes qui ne réalisent pas qu'un jour ou l'autre, voire peut-être bientôt, il leur faudra payer toute aide, toute information qu'ils ont reçue de Satan. Celui-ci a le pouvoir d'empêcher aujourd'hui le malheur de son adepte afin de frapper plus fort ultérieurement. Les astrologues n'ont pas pu sauver Babylone, ni même Israël, et ils ne sauveront pas plus aujourd'hui les nations dont les dirigeants cherchent conseil auprès d'eux. Seul un réveil comme celui d'Éphèse, où étaient brûlés publiquement et à la vue de tous les livres d'occultisme, les horoscopes, les porte-bonheurs, les représentations d'idoles, tout cela pourra sauver une nation livrée à l'occultisme et aux sciences ténébreuses et sataniques. Le réveil remettra cette nation sur la bonne voie. Il aura les mêmes conséquences que celles d'Éphèse. Voyons brièvement ce qui s'y passa. Voyons ensemble ce qui s'y est passé. Premièrement, le réveil d'Éphèse a commencé lorsque l'apôtre Paul a imposé les mains à 12 hommes qui furent tous remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, et ils se mirent à prophétiser. Actes chapitre 19, versets 6 et 7. L'apôtre Paul prêcha avec assurance et enseigna dans la synagogue pendant 3 mois jusqu'à ce que l'opposition l'oblige à se séparer des disciples et à prêcher et à enseigner ailleurs. Son ministère a continué dans l'école de Tyrannus, qui n'a pas, on peut dire qu'il ne fut pas la seule école où est née une église, et cela pendant 2 années. Troisièmement, des signes, des prodiges et des miracles spectaculaires ont eu lieu, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc les maladies pouvaient ainsi quitter ceux qui avaient simplement appliqué un mouchoir ou un tablier sur ces nombreux infirmes. Et je répète, les maladies les ont quittés, et même les esprits malins sont sortis d'eux. Notez Actes chapitre 19, verset 12. Quatrièmement, Dieu leur montra qu'à moins d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, il était impossible de soumettre les démons. Par exemple, les 7 fils de Séva ont été agressés et même blessés par les esprits malins qu'ils ont tenté de chasser. Du reste, les démons se sont moqués d'eux et leur ont dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Actes 19, versets 13 à 16. Cinquièmement, cela a eu pour effet que beaucoup se sont tournés vers Christ et ont commencé de croire. Et c'est alors qu'ils ont apporté leurs livres de magie et leurs curieux objets d'art pour tout brûler. Du reste, le tas d'objets occultes et sataniques consumés a été évalué à 50 000 pièces d'argent, une somme très considérable pour l'époque. Et sixièmement, le feu de joie a créé une émeute, car le diable était fou de colère. Les artisans et les marchands qui gagnaient leur vie par le moyen de ces idoles et de ces objets de magie ont eu peur de faire faillite Et ainsi, ils ont provoqué une énorme émeute. Oui, chers amis, pour terminer, sachez, vous qui écoutez maintenant, qu'un grand réveil suscitera toujours beaucoup d'émotions et de commotions. Il est donc impossible de le tenir secret. Satan ne peut pas, il ne peut pas arrêter un réveil qui vient de Dieu. La seule chose qui puisse arrêter le réveil, c'est quand les chrétiens perdent leur premier amour. Cela a été le cas à Éphèse et dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Jésus reprend son Église. Il dit « Je connais tes œuvres et je connais ton travail et je connais ta patience et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé tous ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as eu beaucoup de patience, et tu as supporté des afflictions pour mon saint nom, et tu ne t'es pas lassé, tu n'a jamais été découragé. Mais j'ai quand même contre toi quelque chose. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi. Il n'est pas faux de se repentir. Au contraire, nous devons le faire. Nous devons devenir assez humbles pour reconnaître que nous sommes perdus sans avoir le Seigneur qui devient notre Sauveur et notre Maître. Donc, il est dit encore, « Je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu. » À moins, bien entendu, et là, ça se répète, que tu ne te repentes. Repentez-vous. Et cela se produisit 20 ou 30 ans seulement après le réveil, autour des années 90. Le feu du réveil s'est donc étouffé à tel point que vers 431, après Jésus-Christ, au concile d'Éphèse, les responsables de l'Église ont décrété l'acceptation du culte à Marie. Ainsi, l'esprit de Sémiramis l'emporte maintenant, finalement, quand même. Il semblerait que Satan a pour cible tout instrument qui est choisi par Dieu pour répandre la bénédiction et le réveil. L'ennemi envoie aussi des légions de démons contre le réveil lui-même et ne se relâche que lorsque il détruit l'œuvre de Dieu ainsi que les instruments qu'il a utilisés. Chers amis, soyons donc sur nos gardes et surtout restons vigilants plus que jamais. Nous allons terminer par la prière. Chers amis, étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est de plus en plus, ou si vous voulez, plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions ensemble maintenant. Mon Dieu et mon Père Céleste, tu es tout pour moi. Ton Saint-Nom est mon soutien. Je te révère, ô Dieu, persuadé que tu es le salut de tous ceux qui souffrent et que tu es le chemin de toute espérance. Je t'aime, Seigneur, et j'implore ta miséricorde pour que tu viennes à mon secours par ton Fils bien-aimé, car je souffre, comme tu le vois, de l'abandon immérité dans lequel je suis plongé. Je te demande, ô mon Dieu, de faire cesser cet état, de me protéger et de permettre de reconquérir l'affection de celles et de ceux qui m'ont laissé de côté. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Le et la malade se rétablit. Or, si nous sommes sincères, nous savons que si nous commettons le péché, l'ennemi a le droit de nous attaquer de diverses façons. Oui, je t'invoque donc, ô Seigneur, afin que tu accueilles mon espoir. Prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de maux reprenne la santé et que mon cœur meurtri par les épreuves et les chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes, à tes commandements, ô mon Dieu. Je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes, et je te demande sincèrement pardon. Exauce ma prière, Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin pour la suite. Au revoir.